Voilà.
C'est pas du vent.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, mais l'incapacité à satisfaire un besoin. Cette phrase m'a beaucoup fait réfléchir et pourtant c'est si évident. Ce qui compte pour chacun d'entre nous, ce n'est pas d'accumuler des billets, mais c'est de nous nourrir, d'être en bonne santé, de se sentir aimé. Finalement, ce qui compte vraiment, ce n'est pas le pouvoir d'achat, mais le pouvoir de vivre. Alors pourquoi la nécessité d'accumuler est devenue notre obsession ? La réponse se trouve dans le mythe de la croissance économique qui est devenu le mantra de la mondialisation dans laquelle nous baignons. Mais une croissance infinie sur une planète aux ressources finies est tout simplement impossible, les amis. Alors que faire ? Eh bien, comme le résume l'anthropologue économiste Jason Hickel, c'est une étrange coïncidence. Ce que nous devons faire pour survivre est aussi ce que nous devrions faire pour être heureux. Inventer un système économique qui permette le bien-être pour tous dans les limites de la planète, nous recommandent les scientifiques du GIEC. Mais comment nous y prendre ? Par où commencer ? C'est justement le sujet d'étude de notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Timothée Baric.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en économie écologique à la School of Economics de l'Université de Lund en Suède. Vous avez fait votre thèse de doctorat sur le lien entre croissance économique, santé sociale et résilience écologique. Et vous venez de publier « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance » aux éditions du Seuil. La décroissance, c'est un mot qui fait peur à beaucoup de gens.
C'est un mot qui fait peur et je pense que c'est parce qu'on le met en miroir de la croissance. Que la croissance nous donne envie et donc la décroissance nous fait peur. Mais si on se pose la question pourquoi est-ce qu'on aime tant la croissance, parce qu'on a peut-être des associations croissance, progrès, croissance, innovation, croissance, éradication de la pauvreté. Mais si on vient vraiment regarder un petit peu de manière concrète ce que nous apporte la croissance et si la croissance ne nous apporte pas ces choses-là, si justement la croissance vient nous apporter une destruction de l'environnement, et bien là tout s'inverse. C'est plus la décroissance qui fait peur, c'est la croissance qui devrait nous terrifier.
Alors justement, nous allons analyser tout cela, mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir être très convaincant, car le culte de la croissance est tenace.
Nous venons d'avoir ce matin le chiffre de croissance pour le deuxième trimestre, plus 0,5%. C'est une victoire de l'économie française dans des temps difficiles.
Je l'avais dit, c'est un formidable professionnel.
On passe au point boursier, le rappel de la clôture des marchés hier, des places boursières européennes qui ont poursuivi leur rebond.
Oh bravo !
Réindustrialiser, réconcilier la croissance et l'écologie de production.
Depuis 20 ans, je dis amen à tout ce que vous dites, tout ce que vous faites.
L'indice parisien a regagné plus de 13% pour repasser au-dessus des 6500 points. 6557 exactement.
Félicitations.
La bourse de Paris, elle, connaît un très bel été. Elle fait même mieux que les autres places européennes.
Ah, les chiffres de la croissance, le journal de la bourse, Timothée Baric, j'imagine que tout cela vous fascine. Comment est-ce que vous définiriez la croissance ?
La croissance, c'est deux choses. Il y a un phénomène concret, c'est-à-dire une augmentation de la production et de la consommation, c'est ce qu'on va venir mesurer avec le produit intérieur brut. Et il y a un phénomène symbolique, c'est-à-dire un discours, un imaginaire, on pourrait même dire une idéologie de la croissance. On en a parlé, cette espèce de vase symbolique, des choses qu'on associe. Mais quand on parle de croissance entre économistes, on parle de l'évolution du produit intérieur brut qui essaye de mesurer la valeur ajoutée d'une économie. Alors, quand on dit valeur ajoutée, les gens pensent toujours, ah oui, ben c'est la valeur, c'est un peu comme la richesse. C'est un espèce de patrimoine qu'on vient créer chaque année, c'est le gâteau qu'on va ensuite pouvoir se partager. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. La croissance, c'est plus une mesure de l'agitation économique, ou plutôt d'une partie de l'économie, c'est-à-dire cette économie qui est régie par des transactions monétaires ou une petite partie de l'économie comme les services publics sur lesquels on peut projeter des valeurs monétaires.
Alors vous prenez une image dans votre livre qui n'est pas forcément évidente pour tous nos auditeurs parce que c'est celle de la boule de neige.
Ah oui, bah, alors la boule de neige, c'est un petit peu quand on vient mesurer la croissance, c'est un petit peu comme secouer une boule à neige. C'est-à-dire que ça crée une agitation des flocons. Si on imagine chaque petit flocon, je ne sais pas, c'est des petits euros, et on va s'échanger plus de petits euros, on va décider de créer des nouvelles marchandises, et bien ça, en fait, ça va se traduire comme une croissance. Donc, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a au moins deux types de croissance dans la réalité. C'est la croissance expansive, l'extension du domaine de la marchandisation. Donc, par exemple, si on passe de couchsurfing, donc, réseau de réciprocité non monétaire.
Donc, le couchsurfing, il faut expliquer ce que c'est. C'est quand on reçoit des gens gratuitement chez soi pour dormir dans son salon, près de son canapé.
Exactement. Ça, si on en fait plus d'une année après une autre, ça ne va pas changer le PIB. On verra ça nulle part. Par contre, si on crée Airbnb et qu'on remplace toutes ces relations de réciprocité qu'on avait dans couchsurfing par des relations monétaires, là, le PIB monte. C'est les mêmes appartements. C'est les mêmes services d'hébergement. On pourrait même dire qu'on s'est peut-être appauvri parce que les relations sociales qu'on a dans un système de réciprocité sont souvent de meilleure qualité que dans un système marchand. Mais le domaine du marché s'est étendu. On a l'impression que l'économie, elle est plus grosse. Mais on voit bien qu'il n'y a rien qui a vraiment grossi. Et après, la croissance, ça peut aussi être une accélération. C'est-à-dire si au lieu de louer l'appartement une fois par an, on le loue une fois par semaine, ben là, bien sûr, les valeurs monétaires, elles vont s'agiter. Là encore, ce n'est pas forcément une création de richesse.
Alors, vous écrivez que tous les économistes devraient apprendre une phrase par cœur. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté et ce qui est compté ne compte pas forcément. Et là, ça pose toute la question de cet indicateur. Vous y consacrez une bonne partie de votre livre, qui est le produit intérieur brut, le fameux PIB, qui a été inventé par l'économiste Simon Kuznets. C'était lors de la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis.
Oui, moi j'ai toujours été choqué quand j'ai appris l'économie, je m'en souviens encore en licence, où on expliquait que l'agriculture en France, ce n'était pas un secteur important, parce que c'est que quelques pourcents du PIB. Et quand même, enfin, pour quelqu'un qui fait l'expérience tous les jours d'ingérer de la nourriture, je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment un secteur de l'économie qui pourrait continuer à fonctionner pendant plus de 48 heures si les gens arrêtaient de manger ? Donc à partir de cette réalisation, qui est très microéconomique, hein, on en fait l'expérience tous les jours, si on élargit en fait la macroéconomie, l'économie nationale, c'est un petit peu comme un grand super-organisme avec un métabolisme. Pareil, on ingère des ressources, de l'énergie et des matériaux, et on vient rejeter des déchets, et rien ne se fait jamais par magie. Donc ces mesures du PIB, qui sont en fait des espèces de selfies monétaires d'une économie, on ne voit pas le transfert de toutes ces choses qui se mesurent en tonnes, en joules, en kilowatts, qui se mesurent en champs de bruit d'oiseaux, qui se mesurent en nombre de fourmis et de micro-organismes dans les sols. Pourtant, ces choses créent énormément de valeur. On ne mesure pas, par exemple, la confiance, les petites interactions de tous les jours qui fluidifient le vivre ensemble. Tout ça, c'est pas compté dans le PIB. Et donc, parfois, on peut se retrouver avec des situations où une agitation du domaine monétaire va se faire aux dépens d'une dégradation du domaine écologique et social, et on appelle ça de la croissance, et on pense que c'est un enrichissement, alors qu'en fait, c'est le contraire, on s'est appauvri.
Par exemple, les feux de forêt, c'est bon pour le PIB.
Les feux de forêt, excellent pour le PIB, parce qu'il faut rémunérer des pompiers pour faire des heures supplémentaires pour les éteindre, il faut mobiliser des camions, il faut mettre de l'essence dans ces camions, alors qu'en fait, si on avait pu éviter un feu de forêt, ça aurait été génial parce qu'on aurait préservé en fait toute cette richesse, les services écosystémiques de la forêt avant qu'ils ne comptaient pas. Parce que les oiseaux, les arbres n'ont pas de compte en banque. Donc, ils ne peuvent pas vous faire un petit virement pour montrer qu'ils ont de la valeur.
Ni réclamer un salaire, oui.
C'est ça.
Alors, cette remise en cause du PIB nous incite à nous demander du coup de quoi avons-nous vraiment besoin ? Est-ce que ce n'est pas une question de pays riches ? Est-ce que ce n'est pas un luxe de se poser cette question ?
Alors, je pense que c'est une question qui est à la base de toute économie. Et si on vient redéfinir ce que ça veut dire que la richesse, déjà, ça veut dire qu'on ne peut plus trop retomber sur cette division pays pauvre à faible PIB par habitant et pays riche à haut PIB par habitant. C'est-à-dire qu'on doit avoir une vision beaucoup plus pluraliste, beaucoup plus holistique de la richesse, des pays où il y a encore une richesse écologique formidable, où il y a une richesse culturelle, une richesse sociale. Et c'est une question de pays riches dans le sens où les pays riches font l'expérience aujourd'hui des contraintes écologiques parce qu'ils ont poussé vraiment ce phénomène de croître, de faire augmenter leur métabolisme biophysique jusqu'au moment où ça ne devient plus possible. Et donc là, ils ont fait l'expérience de l'abondance matérielle la plus élevée au monde et se sont rendus compte que même ça ne rend pas heureux. d'une certaine manière. Enfin, en France, quand on regarde empiriquement le PIB par habitant, au bout d'un moment, il cesse de corréler avec l'amélioration des indicateurs de bien-être, la durée de vie, le niveau d'éducation, les indicateurs de bonheur. On appelle ça le paradoxe d'Esterlin, l'Esterlin, ou le seuil de l'hypothèse de la satiation, de la saturation. Il y a beaucoup de noms où on voit ces courbes. Le PIB par habitant continue à augmenter. Donc, aux États-Unis, on a un PIB par habitant qui est beaucoup plus élevé que la Finlande. Pourtant, en termes d'éducation, les niveaux sont beaucoup plus bas. Pareil, le Portugal a une fraction du PIB par habitant des États-Unis, et pourtant, les Portugais vivent beaucoup plus longtemps et en meilleure santé que les Américains. Donc, on se rend compte que, oui, bien sûr, au début, pour pouvoir satisfaire ses besoins, il faut avoir une certaine infrastructure. Donc, il va falloir transformer la nature, il va falloir mobiliser, il va falloir créer des compétences. Mais ce n'est pas une relation linéaire et surtout, ce n'est pas une relation exponentielle. C'est-à-dire que chaque année, si on a 2% de croissance, c'est-à-dire qu'on va faire grossir l'économie dans la taille qu'elle avait. Chaque année, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. En fait, ça n'a aucune garantie de faire augmenter des indicateurs de bien-être qui sont, eux, qui répondent à des taux de satiation, juste avoir assez de nourriture pour être en bonne santé, avoir assez de maisons pour pouvoir loger toute une population, avoir accès à l'éducation quand on en a besoin.
Alors, on peut peut-être s'inspirer de la nature pour nous guider. C'est en tout cas l'avis du biologiste Olivier Hamant qui étudie les plantes et qui s'est rendu compte que la stratégie des écosystèmes naturels est, contrairement à nous, de miser sur la robustesse plutôt que sur la performance pour durer. Il a publié La Troisième Voie chez Odile Jacob et nous l'avons reçu dans C'est pas du vent.
Pour moi, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc c'est ça, c'est la définition du contrôleur de gestion, quoi, grosso modo. Et la robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Ce qui m'intéresse là-dedans, donc, d'un point de vue purement biologique, c'est qu'on se rend compte que si on regarde un petit peu le cœur nucléaire de ce qui fait fonctionner un être vivant, les réseaux de gènes, les réseaux moléculaires, les réseaux des écosystèmes, c'est que des interactions hein, dans tous les sens. Et c'est construit sur énormément de points faibles. Enfin, des points faibles du point de vue d'un humain du 21e siècle. Des contre-performances, c'est-à-dire des hétérogénéités, des lenteurs, des délais, beaucoup d'incohérences, énormément de redondances. C'est ça qui construit le vivant. Alors, par exemple, dans une forêt, il y a plein d'arbres d'espèces différentes. Tous ces arbres filtrent l'eau, par exemple. Bon, ils ont des fonctions un petit peu différentes, mais finalement, si on prend juste la fonction de filtration de l'eau, ils le font tous, quoi. Il y a plein d'espèces. Elles sont toutes différentes. Donc, on pourrait se dire, mais pourquoi il n'y a pas juste une espèce d'oiseau, une espèce d'arbre, à la limite, d'une façon un petit peu absurde. Ben, on se rend compte que c'est l'hétérogénéité de ces partenaires, qui sont un tout petit peu hétérogènes, redondants, c'est ça qui donne de la robustesse à tout l'écosystème. Il faut toute cette diversité, toute cette redondance pour que le système fonctionne.
Timothée Parigue, donc finalement, contrairement à ce que claironnent de nombreux décideurs politiques, notre obsession ne devrait pas être la performance, mais la robustesse.
Oui, complètement. Moi, j'ai fait ma thèse dans un centre qui était sur le concept de résilience, donc qui étudie justement la résilience des écosystèmes. Et je me retrouve complètement dans cette idée que l'hétérogénéité, la diversité qu'on retrouve dans le monde du vivant, c'est quelque chose qu'on perd dans des économies capitalistes, en fait, qui se sont complètement standardisées, de la même manière qu'on peut comparer une agriculture avec beaucoup d'espèces agroécologiques complexes avec une monoculture. Bah, nous, en fait, on a construit une espèce de monoculture économique, et cette monoculture, elle est centrée autour de l'enrichissement, que ce soit l'augmentation du PIB pour les gouvernements, l'augmentation des profits pour les entreprises et l'augmentation des revenus pour les individus. Et cette augmentation, elle est monétaire, elle est quantitative, elle n'a pas de cible. C'est ça, on n'a pas de... Pour pouvoir décider si... Est-ce que notre économie est efficace aujourd'hui? Si vous demandez à quelqu'un, on va regarder, je ne sais pas, les indices de la bourse, on va regarder les taux d'inflation.
On va regarder les courbes, si ça monte ou ça baisse.
Exactement, mais moi j'ai envie de dire, l'économie est efficace si elle parvient à nous contenter, si elle parvient à satisfaire les besoins de ses participants. Mais même cette notion aussi simple, c'est-à-dire d'une économie du bien-être, on l'a évacuée de la science économique.
Donc notre obsession ne devrait pas être uniquement peut-être le pouvoir d'achat. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant, mais avant cela, chantons ce pouvoir d'achat avec la chanson du dimanche.
Ah, j'achèterais plein d'objets sans fil. Ah, j'achèterais un écran plat. Ah, la vie serait plus facile. Ah, je t'achèterais un stylo. Je t'achèterais
serai un cahier, peut-être même que je pourrais payer l'université. Donnez-moi le pouvoir d'achat, donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait acheté. En plastique, ah, j'étrais une tante Quechua, ah, aujourd'hui on ne sait jamais, ah, je ferai le TER, je t'emmènerai jusqu'à Beauvais, peut-être même que je pourrais payer l'hospice de bébé. Donnez-moi le pouvoir d'achat, donnez-moi le super marché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant. Chez le podologue, faire soigner ma verrue, je m'achèterai un barbecue avec un allume barbecue, je m'achèterai un Rottweiler pour protéger mon barbecue.
Puis je placerai 1000 euros à l'excellent taux de 4%, ce qui me fera au bout de 10 ans la coquette somme de 400 euros. 400 euros, c'est très important. Je pourrais m'acheter une brosse à dents, du jus d'ananas et un téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus, toujours un peu plus. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Pouvoir d'achat par le groupe La Chanson du Dimanche dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Tant que par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale fût-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous sommes en compagnie de l'économiste Timothée Paric aujourd'hui, qui publie « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance » aux éditions du Seuil. Alors, pour nous aider à comprendre à quel point nous sommes intoxiqués par cette obsession de la croissance, Timothée Paric, vous prenez l'analogie du fumeur.
Oui, tout à fait, hein, c'est... Moi, j'utilise l'analogie du fumeur pour parler un petit peu du lien entre croissance et ici émission, et pour le connecter au changement climatique, parce qu'on a trop souvent ça, à penser que le PIB, vu que c'est un indicateur monétaire, c'est quelque chose, c'est une valeur, donc elle va être immatérielle et qu'on peut toujours créer beaucoup plus de valeur sans qu'il y ait une répercussion sur notre utilisation des ressources naturelles. Mais ça, empiriquement, c'est faux. Enfin, d'ailleurs, moi, je vous donne le défi de me donner une seule activité économique qui ne nécessite pas d'énergie et pas de matériaux. Hein. Comme dit Steve Keen, un économiste australien que j'aime beaucoup, qui nous explique qu'un travailleur sans énergie, c'est un cadavre, et une machine sans énergie, c'est une sculpture. Donc même indirectement, toutes les choses qu'on va utiliser ici pour créer ce magnifique podcast qu'on va avoir en ligne, qui va paraître immatériel, est en fait très matériel et utilise de l'énergie et des matériaux. Donc c'est pour ça que la manière dont on vient observer l'économie de haut avec le PIB et d'autres choses, l'inflation et plein d'indicateurs monétaires ne viennent pas refléter la réalité biophysique de nos économies modernes.
Et si on revient donc sur cette analogie du fumeur, que je trouve assez puissante. Vous pouvez nous l'expliquer ?
Alors, l'analogie du fumeur, c'est lié à cette idée de la croissance verte. Donc, aujourd'hui, on peut imaginer quelqu'un qui se présente à l'hôpital, mal en point, dit « voilà, moi, ça fait 30 ans que je fume, j'ai un problème ». Bon, le premier médecin lui dit « oui, bah écoutez, vous êtes en train de développer un cancer, c'est sûrement lié à l'usage de la cigarette ». Et bon, moi, si j'étais vous, il faudrait quand même réduire un petit peu l'usage de la cigarette en attendant que ça s'améliore et peut-être même arrêter de fumer. Entre alors un deuxième médecin, beaucoup plus optimiste, qui va lui dire « Non mais écoutez, non, mais il n'y a pas besoin. Parce que dans le futur, on va sûrement développer des technologies qui nous permettront de construire avec une imprimante 3D des nouveaux poumons. Donc il n'y a pas besoin. Et si vous arrêtez de fumer, on ne pourra plus récolter les euros de les ventes de cigarettes pour investir dans des technologies qui vous permettront plus tard de résoudre votre cancer. Donc si vous arrêtez de fumer maintenant, c'est presque une mise à mort de vous-même. »
Donc ça, c'est votre définition de la croissance verte.
c'est un petit peu mon analyse du discours autour de la croissance verte, de se dire qu'on va continuer à créer énormément de problèmes pour arriver à générer le financement pour les résoudre plus tard.
Oui, on sent que là, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Alors cette croissance qui a pour conséquence la mondialisation de nos échanges a quand même permis d'éradiquer une partie de la pauvreté, hein, vous le dites dans votre livre, de diminuer le chômage, de financer les budgets publics. En tout cas, c'est l'argument qui sous-tend toute la stratégie du Fonds monétaire international, le FMI. Comme l'expliquait récemment Pierre-Olivier Gourincha, le nouvel économiste en chef du FMI, au micro de nos collègues de France Culture.
Je voudrais dire quand même que la mondialisation, effectivement, a eu, c'est assez documenté, un effet sur les accroissements d'inégalités au sein des pays riches. Mais elle a eu aussi comme effet de sortir de la pauvreté absolue des centaines de millions de personnes, voire même des milliards de personnes, dans les pays émergents. Les pays émergents sont émergents précisément et ont réalisé des gains de croissance, de revenus, de niveau de vie, en grande partie grâce à la mondialisation. Donc il faut mettre un peu les deux choses dans la balance. Donc il faut garder ce second aspect donc, qui permet aux pays qui ont des niveaux qui sont derrière en termes de développement de rattraper. Et il faut essayer d'éviter les problèmes d'inégalité ou les problèmes d'ajustement dans les pays avancés. Donc toute une gamme de mesures qui peuvent être mises en place, qui peuvent permettre d'avoir une mondialisation qui est plus heureuse.
Une mondialisation plus heureuse, Timothée Paris, qu'en pensez-vous ?
J'y crois pas. En économie écologique, donc si on observe en regardant l'énergie et les matières, on se rend compte que le développement des pays industriels, donc des pays du Nord, donc des pays soi-disant riches aujourd'hui, s'est fait à travers une appropriation massive d'énergie, d'heures de travail et de matériaux dans les pays du Sud. Donc le style de vie aujourd'hui, certains sociologues parlent du mode de vie impérial des pays du Nord. Encore aujourd'hui, la plupart des choses que nous consommons, que nous utilisons aujourd'hui, nécessitent de l'énergie, des métaux, des matériaux, de la biomasse qui est extrait dans d'autres pays. Donc moi j'ai un petit peu du mal à considérer que c'est un enrichissement dans le même sens où on revient à Aurélien Barraud qui disait bon bah chez nous si on rase une belle forêt avec plein de services écosystémiques et on construit un parking, même si on a créé de la valeur financière, on a compris qu'on s'est pas enrichi. Mais si on fait ça dans un autre pays en rasant la forêt amazonienne pour pouvoir manger plus de viande et qu'on dit oui non mais ils s'enrichissent parce qu'on leur a payé quelques dollars. Mais non, ils se sont pas enrichis, ils ont dégradé la marge de manœuvre pour atteindre la prospérité et pour, sur le très long terme, satisfaire leurs propres besoins.
Oui, mais l'un des arguments pour défendre, par exemple, la culture du palmier à huile en Indonésie, c'est de dire qu'il y a l'exploitation des palmiers à huile a donné naissance à une classe moyenne en Indonésie, à des gens qui n'avaient pas d'argent, qui étaient dans la pauvreté et qui maintenant ont suffisamment de moyens pour avoir un niveau de vie qui correspond à celui de la classe moyenne.
Ce qu'on voit aussi, en fait, c'est une stratégie de très court terme, parce qu'un pays ne va pas se développer avec une économie qui consiste à exporter des ressources naturelles. Ça aussi, on peut l'observer, tous les pays qui se retrouvent coincés un petit peu dans une situation où ils exportent des ressources naturelles, donc avec très peu de travail modifié, on vient juste extraire un minéraux ou de l'huile de palme et on l'exporte. C'est des économies qui restent sous un plafond de verre.
C'est la fameuse malédiction du pétrole.
C'est la malédiction du pétrole qui s'applique à toutes les ressources naturelles. Donc aujourd'hui, on peut dire, oui, bah, sur le très court terme, peut-être que ça va générer un petit revenu. Mais dans 20 ans, mais dans 30 ans, une fois qu'ils ont dévasté toute la biodiversité, après quelques incendies dus au réchauffement climatique qui ne permettront plus d'avoir des monocultures parce que ça brûle comme du petit feu. Comment est-ce qu'on va faire ? Donc, moi, j'aime beaucoup l'approche de l'économiste indien Amartya Sen, qui parlait des capacités. Ça a été une révolution de la façon dont on pense le développement. Au début, dans les années 50, quand le concept de développement émerge, c'est linéaire, il faut s'enrichir, il faut faire augmenter le revenu par habitant. Ça, c'est une vision avec les pays sous-développés qui n'ont pas encore vraiment de propriété privée, de marchandises, de monnaie, d'institutions capitalistes et donc qu'on considère comme des économies sauvages, vraiment qui n'arrivent pas encore à décoller. Il faut qu'elles émergent, qu'elles arrivent à faire augmenter leurs revenus. Et bien sûr, dans l'histoire du développement, ça s'est fait comment ? En vendant leurs ressources aux pays riches qui se sont véritablement enrichis dans le sens économique du terme. C'est-à-dire qu'on nous a permis d'avoir un mode de vie où on peut se déplacer super vite, super loin, où on peut avoir des grandes maisons bien chauffées, où on peut manger une nourriture d'une diversité exceptionnelle. Donc, on a, nous, vraiment bénéficié de cette richesse complètement matérielle. Donc, si on revient aux capacités d'Amartya Sen, c'est de se dire, pensons le développement à partir des besoins et du bien-être. Et de se dire, nous, ce qu'on veut, c'est une certaine résilience. On veut toujours être capable de pouvoir satisfaire nos besoins. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on arrête d'acheter l'huile de palme d'un pays qui s'est spécialisé dans son exportation ? L'économie s'effondre. Qu'est-ce qui se passe si ce pays ne peut plus exporter de l'huile de palme ? Il s'effondre. Si on prend un pays avec une économie un petit peu plus diversifiée comme la France, quoi qu'il se passe en France, de par la diversité de notre économie, on est protégé contre un effondrement parce qu'on a plein de secteurs, on a plein de spécialités, on a plein d'institutions complexes. Donc, je ne vois pas pourquoi, à la maison, on devrait privilégier ces économies complexes, diversifiées, et à l'étranger, leur dire « non, gardez vos économies monoculturelles ».
Oui, alors ça veut dire aussi qu'il faut peut-être revoir notre notion de développement, hein, vous l'évoquiez. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense le philosophe sénégalais Félouine Sarr.
Ce qu'on oublie, c'est que l'économie n'est pas naturelle. L'économie est une anthropologie. Et l'économie est d'abord un fait social, un groupe humain dans un lieu, une géographie, a des ressources, a des contraintes, a des besoins. Avec ça, il essaie de trouver un modèle qui fonctionne. Et toute l'anthropologie économique nous montre qu'en Tasmanie, quand il y a des sociétés de l'abondance ou des sociétés du don et du contre-don, c'est parce que ça répond à un contexte. Ça répond à une écologie des ressources, ça répond à une géographie. Et à l'intérieur de ça, les groupes humains sont intelligents, essaient de trouver les modes de production, de répartition de la plus-value, les modes d'échange qui sont adéquats à leur système. Et que l'économie néolibérale capitaliste est un fait social. Les groupes humains ont répondu à leurs besoins économiques durant des millénaires sans cette forme-là. Et cette forme, elle est apparue à un moment donné.
Ça ne fait que 150 ans, finalement.
Voilà, ça ne fait que 150 ans sur la grande histoire de l'humanité. Et cette forme-là, arrivée au cœur de ces contradictions internes, disparaîtra. Et que donc, du coup, ce n'est pas une parole d'évangile. Et ce modèle essaie de nous faire croire qu'il est le seul, issu d'une longue évolution, et que c'est le dernier jour, quoi, le jour où Dieu se repose, le dimanche éternel, et rien ne se passera plus. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, beaucoup d'économistes très sérieux ont commencé à travailler à l'économie post-capitaliste, ont commencé à se poser des actions de savoir. Mais si on n'a plus de système financier, comment on fait ? Comment on fait circuler des échanges ? Qu'est-ce qui va prendre la relève ? Si on n'a plus de banque, comment ça va marcher ? Etc, etc. Donc, il faut, du point de vue des chercheurs, il faut cette réflexion prospective. Mais peut-être qu'il faut aussi redescendre du point de vue des sociétés et se rendre compte que les individus sont les experts de leur propre vie. Les sociétés humaines sont très créatives et elles n'attendent pas les théoriciens pour trouver des solutions au jour le jour, pour essayer des stratégies et sélectionner celles qui fonctionnent. Et on a une économie en Afrique qu'on appelle l'économie informelle, qui nourrit plus de 60% des Africains, qui a une vision intégrative des fonctions d'allocation et de redistribution, mais en même temps, qui est hyper formalisée, sauf qu'elle n'est pas formalisée sur les mêmes codes et sur la même axiologie que l'économie classique.
C'est presque une insulte de l'appeler l'économie informelle.
Oui, parce que justement, on la réfère en négatif par rapport à une économie qui serait, elle, la bonne économie, l'économie formelle. Et au lieu de voir que c'est une économie populaire fondée sur une socioculture et qui a ses codes et qui est formalisée sur la parole donnée, sur la confiance, sur la fiducia, sur un certain nombre de choses, sur le capital social et symbolique, et qui justement produit des résultats intéressants, qui a des limites et des faiblesses, bien sûr, qu'il faut regarder en face, mais qui a dans d'autres domaines des résultats absolument importants. Au lieu de regarder comment ces résultats, on les améliore, comment on les comprend, comment on leur fait changer d'échelle, etc., etc., puisque ça fonctionne sur des ressorts qui sont profondément là, non, on essaie de la formaliser.
Alors c'est qui on ?
Les gouvernements, les thuriféraires du système économique, tous les prescripteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie, ce n'est pas juste un individu, c'est un système industriel, c'est la Banque mondiale et le FMI, c'est des ouvrages d'économie néolibérale, c'est des discursivités hétérogènes qui nous gouvernent, des slogans, des visions du monde, etc. etc. Et c'est tout ça qui installe un système.
Le rôle des médias aussi.
Oui, qui dissémine dans le corps social un certain nombre de pratiques, une vision du monde. Il y a eu quand même un travail systématique ces 20 dernières années pour ne laisser la place qu'à cette vision économique-là et en faire la vision économique.
Timothée Paris, comment est-ce que vous réagissez à ces propos de Félouine Sarr ?
Je bois chaque parole. c'est exact. On peut rebondir dans mille directions, mais c'est vraiment la véritable analyse ici de se dire que l'économie n'a pas été inventée il y a 150 ans. L'économie n'a pas été inventée quand on a inventé le PIB ou la macroéconomie au début du XXe siècle. Et les anthropologues le savent, les historiens le savent, même les sociologues le savent. Donc, il faut faire descendre de leur piédestal les économistes qui ne voient que les valeurs monétaires quand ils regardent l'économie. Il faut se débarrasser de ces espèces de divisions pays riches, pays pauvres en fonction du PIB par habitant, pays formel, économie formelle, économie informelle en fonction de sa relation marchandisée ou avec le salariat et des catégories qui sont vraiment purement occidentales et capitalistes, pour pouvoir recréer en fait un vocabulaire qui nous permette d'apprécier la diversité des économies et d'en revenir encore à une diversité des prospérités, de se dire que voilà, chaque communauté, l'économie, c'est quoi ? C'est un protocole de satisfaction des besoins, c'est-à-dire qu'on vient ensemble se mettre d'accord sur des règles qui nous permettent ensemble de faire mieux que ce qu'on aurait fait tout seul. Et c'est quoi en fait l'efficacité ? On se met ensemble pour arriver à satisfaire des besoins. Et ça, c'est pour l'histoire que j'aime beaucoup, hein, du capitaliste et du pêcheur. Hein, le capitaliste qui vient voir le pêcheur tranquille en train de faire la sieste, qui vit dans cette économie d'abondance, donc on pourrait dire dans la pauvreté. Mais non, il y a du poisson, on a besoin de pêcher que quelques heures par jour, je peux faire la sieste, passer du temps avec mes enfants, faire du théâtre avec la communauté, voilà, tout ce qu'on veut. Et le capitaliste lui dit, mais quel gâchis, parce que si tu développais un meilleur bateau, des meilleures techniques, tu pourrais vraiment pêcher beaucoup plus de poissons, et là tu aurais beaucoup d'argent, et dans l'histoire ça continue, et le pêcheur comprend pas, il lui demande mais qu'est-ce que j'ai à la fin ? Le mec lui dit bah à la fin tu auras tellement d'argent que tu pourras prendre ta retraite et faire la sieste et faire du théâtre, tu pourras te reposer et faire ce que tu veux. En fait, là on se rend compte que le capitalisme n'apporte rien, et que certaines situations qui d'un point de vue monétaire peuvent paraître être des situations de pauvreté peuvent être des situations d'abondance. Et là, alors bien sûr faut pas généraliser. Mais même dans un pays comme la France, où il y a certaines... Wikipédia, par exemple, est une richesse phénoménale.
Donc ce site Internet qui est finalement une encyclopédie gratuite à laquelle chacun peut participer.
Exactement. Encyclopédie gratuite veut dire pas de transaction monétaire, veut dire on ne la voit pas dans le PIB, et donc elle n'existe pas. Alors que pourtant, c'est une richesse, et si elle venait à disparaître, ça serait un appauvrissement extraordinaire. Toutes les personnes qui, tous les jours, cherchent des choses sur Wikipédia ne pourraient plus satisfaire ce besoin-là. Et de vrai, on pourrait d'ailleurs marchandiser Wikipédia, en vendre l'accès, ça viendrait un boost de croissance, donc là, les économistes seraient contents. Mais en fait, ça viendrait réduire l'accès à Wikipédia, donc ça viendrait compliquer la capacité des gens à satisfaire leurs besoins, et ça ne serait pas forcément positif.
Reste cette notion, en effet, de satisfaction des besoins, hein, et la question qui va avec, qui est celle du statut social, parce que nous aspirons tous, finalement, à plus de confort matériel. Regardez les émissions de télé-réalité ou le succès des influenceurs qui inondent les réseaux sociaux depuis Dubaï.
Alors, il y a des besoins de base qu'on partage tous, et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle la logique positionnelle de la consommation. Et c'est ça qui est super intéressant. Moi, j'utilise ça pour développer une critique sociale de la croissance. C'est-à-dire, à partir du moment où on a à peu près construit les maisons, les routes, les écoles, donc là, en France, on a largement dépassé ce seuil, en fait, matériel où on a assez pour satisfaire les besoins de base. En fait, il y a une logique positionnelle qui commence. Donc là, par exemple, vous allez avoir une voiture, une Twingo. Moi, je vais avoir une Ferrari. Là, vous allez vous dire, bah non, il a le prestige parce qu'il a la Ferrari, moi, je vais avoir une Ferrari. Donc, vous allez travailler beaucoup plus, faire un truc, vous allez vous acheter une Ferrari. Moi, je vais m'acheter deux Ferrari. Là, vous allez dire, ah, c'est pas possible. Donc, vous allez acheter trois Ferrari. Moi, je vais m'en acheter quatre Ferrari. Et en fait, on n'avance pas. Ça, c'est ce que disait Fred Hirsch dans les années 70. Quand on est au cinéma et qu'on se met sur la pointe des pieds pour voir mieux, si tout le monde se met ensuite sur la pointe des pieds parce que je me suis mis sur la pointe des pieds, en fait, on se retrouve à la situation initiale où on a exactement la même vue, sauf que c'est chiant parce qu'on est tous sur la pointe des pieds. Alors que si on s'était mis d'accord pour limiter un petit peu nos désirs, pour mieux s'organiser, on s'est dit, bah écoutez, on va tous s'asseoir et comme ça, on sera confortable pour regarder un film. On peut voir ça, la décroissance aujourd'hui, c'est de s'arrêter, de se dire, bah écoutez, on a assez de richesses en France, on va tous s'asseoir et on va s'organiser pour pouvoir partager nos richesses pour être heureux.
Eh bien, en attendant, if you don't buy, you die. Si vous n'achetez pas, vous mourrez. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le titre de Jérôme Minière que nous écoutons maintenant dans C'est pas du vent, évidemment.
Selling time, selling happiness, selling power, selling water, selling kisses, selling doubts, selling certainty, selling comfort, selling emotions, selling youth, selling motion, selling lies, selling life, selling entertainment, selling silence, selling games, selling strategic, strategic marketing, selling strategic, strategic marketing. If you don't buy, you die. If you don't buy, you die. If you don't buy, you die. Don't buy, you die. Selling dreams, selling beliefs by numbers, selling security, selling complexity, selling simplicity, selling intimacy, selling identity, selling love, selling what you call beauty, selling collateral damage, selling eternity, selling injustice, selling human history, selling trash, light, 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 darkness, selling past, present, future, 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 future. If you don't buy, you die. 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 If you don't buy, you die.
If you don't buy, you die, interprété par le chanteur français Jérôme Minière dans C'est pas du vent sur RFI.
There is no planet B.
C'est pas du vent.
There is no planet blah.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Blah blah blah, blah blah blah.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Net zero by 2050, blah blah blah, net zero, blah blah blah, climate neutral, blah blah blah.
Et pas de blablabla dans C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes en compagnie de l'économiste Timothée Parik, aujourd'hui qui publie Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance aux éditions du Seuil. Alors, on va essayer d'expliquer, Timothée Parik, ce que c'est que la décroissance selon vous, parce que ce n'est pas du tout quelque chose d'utopique, c'est tout à fait concret, possible et réalisable. On a un quart d'heure pour le démontrer. Donc, je vous propose de démarrer par ce que vous considérez comme être la définition de la décroissance.
Bon, alors c'est parti. Moi, je définis la décroissance comme une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc là, on comprend un petit peu ce que les gens, quand ils entendent décroissance, réduction de la production et de la consommation. Mais ça, c'est qu'une partie. Ensuite, il faut ajouter ces quatre grands principes, la soutenabilité, la justice, la démocratie et le bien-être. Et ça, ça change tout, parce que ça veut dire que la décroissance, eh ben, elle va être sélective. Sélective chez les gros consommateurs, sélective dans les régions qui consomment le plus, sélective dans les biens et services qui ont des empreintes écologiques les plus élevées. Ça veut dire que ça va pas être une décroissance aveugle, pas planifiée, ça va être un processus démocratique de décider quelles sont les priorités, de quoi avons-nous vraiment besoin, qu'est-ce qu'on peut se permettre de consommer moins. Donc ça, c'est pour ça que je voulais vraiment ajouter le planifier démocratiquement. Dans le souci de bien-être, c'est un retour, c'est-à-dire moi je vois ça comme un espèce de progrès. Si on a des économies aujourd'hui qui sont obèses, qui ont du mal à fonctionner, qui se retrouvent dans des liens internationaux où on a une dépendance à des ressources énergétiques et d'autres ressources qui nous mettent à risque, qui mettent notre bien-être à risque dans des avenirs géopolitiques incertains, eh ben on aurait intérêt à développer des souverainetés alimentaires, énergétiques, une économie de la diversité qui soit beaucoup plus résiliente pour arriver à garantir le bien-être.
Alors, quand vous dites produire et consommer moins, on aurait pu faire un jingle avec le rire de Kylian Mbappé, par exemple. pourtant, vous dites que ce n'est pas très compliqué parce qu'il y a 71% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, par exemple, qui sont rattachées à seulement 100 entreprises, essentiellement dans le secteur de l'énergie. Si on prend les déchets plastiques, c'est 20 entreprises qui sont responsables de plus de la moitié de leur production. Je pense à ce que nous disait Maxime de Rostolan la semaine dernière dans C'est pas du vent, en disant par exemple Coca-Cola, c'est 11 000 objets Coca-Cola qui sont ouverts par seconde dans le monde. On le voit quand on se promène sur les plages, etc. Donc finalement, on connaît les responsables. Donc on pourrait commencer démocratiquement par aller titiller cela, non ?
Alors, faut faire attention avec ce chiffre. Il y a eu un très bon article sur le média en ligne Bon Pote qui l'avait décortiqué pour bien expliquer que, bien sûr, si on regarde les entreprises qui extraient l'énergie, ben, on va se retrouver avec les émissions de toute l'économie. Mais ça nous donne un goulot d'étranglement. Moi, j'utilise ce chiffre pour dire qu'on peut facilement, en fait, avoir des protocoles de rationnement de l'énergie et du carbone. Si on voulait agir très rapidement, on sait où aller. Mais pour changer les comportements de production et de consommation de toute l'économie, là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai que même au-delà de ce chiffre, quand on regarde les émissions carbone en France ou l'empreinte matière, elle est très corrélée avec les revenus et la richesse. Donc là aussi, il ne suffit pas de faire comme Thanos dans les Avengers, de serrer du poing et de supprimer la moitié de la population. Ça ne servirait à rien. Il faut aller chercher des émissions là où elles sont. Et les émissions, elles sont dans des modes de consommation des ménages les plus aisés. Elles sont dans les investissements des ménages avec les plus gros portefeuilles. Et donc là, il faut aller un petit peu à la chasse aux émissions. C'est génial. On retombe sur la coïncidence heureuse de Jason Nickel, parce que réduire les inégalités, on sait que ça améliore le bien-être. Donc là, on peut à la fois réduire les inégalités, améliorer le bien-être et aussi réduire l'empreinte écologique.
Il faut aussi accorder de la valeur, vous le dites et vous êtes de nombreux économistes à le dire de plus en plus, accorder de la valeur à ce qui n'est pas humain.
Alors moi, c'est l'étape d'après. Hein. Je pense qu'il faut développer une sympathie écologique. Il faut étendre un petit peu la sphère de l'éthique, où là, à travers le changement climatique, déjà, on commence à se poser des questions. Si j'achète des chaussettes chez une grande marque ici et qu'elles sont construites, qu'elles sont fabriquées au Pakistan, là, d'un coup, maintenant, avec des informations, on se retrouve en relation avec ces travailleurs pauvres au Pakistan et on se dit, voilà, je me sens un petit peu responsable, je suis dans le système. Mais en fait, il faut étendre cette même pensée systémique au monde du vivant dans son intégralité. Donc, et moi, c'est une expérience de pensée que j'aime beaucoup faire. On a tous grandi avec des Disney. On a tous grandi avec une vision des animaux comme des personnes, qui ont des émotions, qui ont des noms. Et bien, si on devait reconstruire l'économie aujourd'hui, en prenant tous les animaux comme ça, comme des personnes, c'est-à-dire que raser une forêt pour faire un parking, jamais. Raser une forêt, c'est pas raser une forêt. C'est un génocide d'espèces animales. Donc là, si on développait cette sympathie écologique, qui n'est pas complètement nouvelle, hein, quand je parlais du buen vivir en Amérique du Sud avant, c'est une éthique, une cosmologie qui est basée justement sur cette vision de ce qu'ils appellent la communauté élargie. Donc de se dire, nous humains sommes dans une société du vivant en interaction avec non seulement des animaux qu'on connaît, mais aussi des micro-organismes, des insectes, et aussi des écosystèmes beaucoup plus grands, une rivière, une montagne, une forêt. Et donc, ça, c'est une hypothèse, mais moi, je trouve ça assez puissant, et les économistes, bien sûr, n'en parlent jamais, parce que ça les dépasse de loin, c'est une question de philosophie. Et si la meilleure façon de protéger le vivant, c'était justement de le respecter comme ça, à travers cette philosophie de la communauté élargie.
Mais ça veut dire qu'il faut concevoir une autre manière d'habiter le monde que celle qui est véhiculée depuis deux siècles par le monde occidental.
C'est pour ça qu'il y a la montagne inversée sur la couverture. Il va falloir vraiment complètement renverser certains modes de pensée. Donc on a à la fois le déplacer des montagnes, ça va être super dur. Mais il faut aussi non seulement les déplacer, mais parfois juste complètement penser à l'envers. On en a déjà parlé sur la richesse. Inverser notre vision de la richesse, inverser notre version de notre vision de la valeur, de l'utilité.
Mais alors aujourd'hui, on mise davantage, au lieu de miser plus sur ces cosmologies dont vous parlez, on mise davantage sur une autre vision de la croissance, sur la croissance verte, sur le progrès technologique. Alors vous écrivez, j'ai envie de lire ce passage parce que c'est vrai que ça pose quand même bien les choses. Vous dites, on peut décarboner l'économie avec des énergies bas carbone, des voitures électriques, des biocarburants, mais au prix d'autres impacts. La construction d'éoliennes affecte les sols, les biocarburants incite à la déforestation. La production d'un panneau solaire d'une capacité d'un mégawatt nécessite presque 3000 tonnes d'eau. La construction d'un barrage détruit des habitats riches en biodiversité. La construction d'une voiture électrique demande 6 fois plus de matériaux qu'une voiture thermique. Et les énergies renouvelables demandent 10 fois plus de métaux par kilowattheure que leurs homologues fossiles. Et là, du coup, on se rend compte qu'aujourd'hui, au lieu de remettre en cause la croissance, comme on l'a expliqué, enfin, comme vous l'expliquez dans votre livre et comme nous l'expliquons dans cette émission, finalement, on change les matériaux, on passe des énergies fossiles aux énergies renouvelables, des voitures thermiques aux voitures électriques, mais on ne change pas profondément le système et l'économie, la façon d'habiter ensemble et de faire ensemble.
À lui tout seul, cet argument arrive à enterrer l'hypothèse de la croissance verte. Faites attention, dès qu'on entend parler de croissance verte, posez-vous la question de quelle pression environnementale on parle. Est-ce qu'on parle de biodiversité, d'eau, de pollution de l'air, de pollution des sols, d'émissions de gaz à effet de serre? Quelles émissions? Est-ce que ça prend en compte les émissions apportées? Toutes ces questions-là. Et vous allez vous rendre compte que dès qu'il y a un économiste qui arrive et dit « Ah, c'est bon, il n'y a pas de souci, on peut continuer à croître », on a découplé le PIB et les émissions, on a réussi à verdir, et ben il ne regarde qu'un indicateur. Donc il ne regarde qu'un indicateur et très souvent, ben, ils ont juste déplacé le problème, comme on l'a vu là pour décarboner l'économie, mais augmenter la quantité de matière nécessaire pour pouvoir produire. Quand on prend un point de vue vraiment systémique, holistique, on regarde vraiment toute l'économie, c'est-à-dire l'intégralité des relations qu'elle a avec les écosystèmes, cette espèce de gros métabolisme, et ben on se rend compte que la croissance, forcément produire des nouvelles choses, on revient à la définition de la croissance comme une agitation. Moi, j'aime beaucoup parce que si on parle à quelqu'un qui fait de la physique, on s'agite, et ben l'agitation va demander de l'énergie. C'est la même chose macroéconomiquement. Pourquoi est-ce que quand on s'agite, en tant qu'individu, on va avoir besoin de plus de nourriture, de choses comme ça, mais quand on s'agite collectivement en tant que pays, non, c'est bon, ça ne demande aucune énergie. D'ailleurs, on peut s'agiter plus et demander moins d'énergie. Ce n'est pas le cas, les chiffres le montrent, le dernier rapport du GIEC l'explique. Donc maintenant, la croissance verte est ce qu'on appelle, ce que j'aime bien appeler une théorie zombie. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune validité, on aurait dû la laisser tomber il y a quelques années, mais c'est une belle opportunité de faire un espèce de greenwashing macroéconomique que je trouve un petit peu bizarre, parce que la croissance verte, en gros, elle nous dit quoi aujourd'hui? Elle est utilisée pour dire non, on n'a pas besoin de faire de grands changements dans notre économie, ça va bien se passer. Alors que justement, moi j'aurais envie de dire, même si on avait beaucoup plus de budget carbone et même s'il n'y avait pas des problèmes environnementaux si urgents, eh ben on aurait quand même un intérêt à transformer notre économie pour qu'elle puisse mieux satisfaire le bien-être, pour qu'il y ait moins d'inégalités et de choses comme ça. Et donc, je ne comprends pas en quoi on devrait avoir cette espèce de carte joker. Non, on reste et tout va bien. Parce que aussi, si... Alors là, moi, je veux bien leur donner ça. Si un jour, peut-être, on arrive à complètement dématérialiser l'économie et trouver, je ne sais pas, des technologies qui nous permettent d'aller chercher des métaux sur les comètes et à télétransporter de l'énergie d'autres soleils, eh ben, on pourra toujours recommencer à croître. Il n'y a pas de souci, on pourra recommencer à produire plus. Mais pour l'instant, dans les contrats qui sont les nôtres, on ne peut pas non seulement croître plus, mais on ne peut même pas maintenir la taille de notre économie à sa taille actuelle, il va donc falloir décroître.
Alors, comme vous l'écrivez à la fin de votre livre, arrêtons-nous ici, puisque c'est l'heure de la sieste.
Parfait.
C'est l'heure de la sieste. Merci Timothée Paris d'être venu dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance, c'est publié aux éditions du Seuil. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.